Le sacré, c'est au fond quelque chose dont on ne peut pas parler, je dirais presque par définition.
Michel Léris.
Le sacré, au fond, c'est ce à quoi on adhère inconditionnellement. Et c'est pour ça qu'on peut guère en parler, d'ailleurs. On peut parler autour, mais on ne peut pas parler de. Si on part simplement de la forme, on ne lui découvrira pas un contenu. C'est le contenu tout de même qui détermine quelle sera sa forme. Le rite pour le rite, ça ne veut rien dire. C'est ce qui m'avait détourné d'Acéphale, d'ailleurs. Pour ce qui me concerne personnellement, j'ai jamais voulu être initié à Acéphale. Parce que le côté initiation me paraissait absurde, je dirais. Ce que je considérais, c'était en effet, là j'étais tout à fait d'accord avec Bataille, que les choses se passent comme si un certain nombre de gens formaient une espèce de société secrète, mais qu'il ne fallait absolument pas qu'une société secrète de ce genre s'institutionnalise. Si les choses doivent se passer comme dans une société secrète entre un certain nombre de gens, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas que ça devienne institutionnel. Il faut que ça garde toute sa fraîcheur.
Quels sont les raisons qui feront que très vite Michel Léris se sépara de ses compagnons? Il y a une lettre du 3 juillet 1939 adressée à Georges Bataille où il fait part de ses doutes quant à la fondation d'un ordre ou d'une communauté morale, de même qu'il se sépare sur la notion de sacré. Mais c'est pas très, disons, c'est pas très précis.
Oui. Écoutez, moi je ne pense pas qu'il y ait véritablement une séparation. Il y a eu des difficultés, il y a des tensions. Là encore, je retiendrai deux points de tension majeurs. Le premier est lié au fait que Léris est maintenant un ethnologue officiel. Il est diplômé, il est titularisé, et il est assez soucieux d'établir son sérieux professionnel. Et il y a, en ce sens, toutes sortes d'aspects du collège de sociologie qu'il désapprouve. Il manque, d'une certaine manière, d'un sérieux scientifique. Il y a un aventurisme philosophique et politique. En particulier, Léris est assez résistant, assez hésitant à l'égard de tout ce qui consisterait en une lecture du présent, du vécu contemporain, à la lumière des catégories de la sociologie primitive. Bon, ça c'est le premier point. Et il y a un second point qui est assez intéressant, qui est, bon, nous sommes en 1939, il y a une réflexion profonde, ambiguë comme on aime le dire, sur les propositions idéologiques de mouvements comme le nazisme. Et à l'intérieur du collège de sociologie, cela se traduit par, je dirais, un conflit entre une mythologie primitive ou hellénique, c'est-à-dire une condamnation de la mythologie chrétienne, si vous voulez, et au contraire, une réaffirmation d'une certaine, d'un certain modèle idéologique et mythologique chrétien contre l'hellénisme et le paganisme d'outre-Rhin. Et là encore, petit à petit, Léris, en liaison avec un ami proche qui s'appelle Marcel Moret, va s'orienter vers une sorte de redécouverte, si on peut dire, du catholicisme de son enfance. Et qui est une découverte qui est assez sensible dans certains chapitres de Bifure. En particulier, Il était une fois, avec toutes les allusions, toutes les réflexions sur les noms bibliques.
Est-ce que vous diriez, Denis Ollier, au fond, que c'est le poids de l'histoire? Parce que là, je vous cite, vous dites que Munich est le début de la guerre, qui mèneront Léris à l'écriture de la règle du jeu, et vous comparez, si je puis dire, ce projet de la règle du jeu à celui des chemins de la liberté de Sartre, ou encore au communisme d'Aragon, ce qui n'est pas sans surprendre peut-être certaines personnes aujourd'hui.
C'est un rapprochement qui est strictement ponctuel, c'est-à-dire ce sont trois entreprises à longue échéance, de longue haleine, qui ont eu comme point de départ ce que j'appellerais l'interprétation d'une expérience historique qui est liée aux années 38, 39, 40, hein, de Munich à la débâcle. Et d'ailleurs, on aurait pu ajouter Malraux, bien que Malraux ne soit pas allé aussi loin, il a abandonné en cours de route beaucoup plus tôt. Mais ce sont des années qui ont été pour ces écrivains, comme certains d'entre eux l'ont dit, c'est ce que Sartre a dit, des années de la rencontre avec l'histoire. Ils ont conçu une œuvre qui devait rendre compte de cette rencontre. Et ce qui est assez intéressant également, c'est que ces grands projets, ceux de Sartre et ceux d'Aragon, sont restés inachevés, n'est-ce pas ? Nous ne parlons même pas de celui de Malraux, qui a à peine commencé. Et d'une certaine manière, c'est ça le paradoxe des paradoxes, c'est que Léris, d'une certaine manière, est le seul à l'avoir mené à son terme, puisque La règle du jeu est un ouvrage terminé, un ouvrage clos. Le dernier volume apparu a été écrit.
C'est une vieille histoire, en fait, c'est Sartre. Sartre qui a été, pendant peu de temps, mais ça vous marque, mon professeur en classe de philosophie.
Jean-Bertrand Pontalis.
Et qui, donc c'était dans les années 41, donc l'âge d'homme était déjà apparu, je crois bien.
Et 39.
Voilà, pas un très bon moment, sa nuit d'ailleurs à l'accueil de ce livre. Du fait de la guerre, et Sartre, je crois bien, m'avait parlé de l'âge d'homme, et ce qui est devenu donc assez vite pour moi un livre de l'âge d'homme, un livre vraiment de référence. Rétrospectivement, je comprends bien pourquoi Sartre tenait ce livre pour un très grand livre, parce que Léris, là, s'y décrit, si je peux dire, de l'extérieur, comme un objet. Il se prend lui-même pour objet. Au lieu que ça soit, dans tout ce qu'il y a toujours dans les autobiographies, une certaine complaisance à soi, là, il s'observe un peu comme un ethnologue qu'il était aussi, peut observer une société qui lui est étrangère. Et souvent très éloigné même de ses croyances, de ses manières de penser. Donc il se prend pour objet. Et c'est au fond ce qui est toujours resté, je vous parle plus de Sartre là que de Léris, qui est toujours resté un peu le projet de Sartre quand lui-même a voulu, sur le tard, écrire son autobiographie. Enfin, autobiographie est peut-être pas un bon mot, parce que c'était pas un récit, ça n'aurait jamais été un récit chronologique de son histoire, mais c'était de se prendre lui-même, de prendre son moi, si je puis dire, pour objet, et de le décrire avec toutes les méthodes qui lui étaient accessibles. Pour Sartre, ça aurait été la psychanalyse, la sociologie, le marxisme. Bon, mais de se prendre, donc, de s'objectiver, en quelque sorte. Et Léris, lui, plus influencé par la psychanalyse, puisqu'il avait déjà été sur un divan, je crois que, je ne sais plus si c'était celui d'Alindy ou de Borel, enfin, l'analyse ouais, de l'époque, Borel. J'ai eu le sentiment que, j'étais pas du tout, évidemment, j'avais 20 ans analyste à l'époque, mais que, il faisait, après être passé par une analyse, qu'il allait s'observer, décrire ses fantasmes, son monde imaginaire, mais encore une fois, vu du dehors. Donc un peu l'idée aussi de Sartre, la différence, enfin qui n'est pas uniquement la sienne, la différence entre le jeu et le moi étant objet pour le jeu.
Vous dites d'ailleurs, Jean-Bertrand Pontalis, que Léris se tenait en quelque sorte en respect.
Oui, en respect et à distance, enfin, oui, au moins ça. Surtout dans l'âge d'homme.
Dans l'âge d'homme, oui.
Et puis, bon, pour ceux qui l'ont... Je l'ai très peu connu personnellement, mais je l'ai quand même assez souvent croisé, et tous ceux qui l'ont croisé, même connu de plus près, savaient comme lui-même était toujours tiré à quatre épingles, très, très raide, un peu corseté, donc comme s'il se tenait lui-même en respect. Enfin, c'est le contraire de quelqu'un qui se complaît, voire l'opposé de quelqu'un d'avachi, si vous voulez. Il y avait une espèce de dureté, de fermeté, de rigueur. Donc je crois que Léris, surtout dans l'âge d'homme, a essayé là de faire l'inventaire de ses propriétés auquel il était plus ou moins soumis, et ce qu'il appelle, enfin, je ne sais pas s'il emploie le mot, mais c'est un peu ses fantasmes, ses obsessions, qui sont, bon, pour beaucoup, la mort. Léris, c'est quelqu'un qui a été hanté tout au long de sa vie par la mort, qui avait ce fantasme, pour le coup, le mot se justifie, de pouvoir assister à sa propre mort. Et que ce qui l'angoissait, c'est de ne pas pouvoir, justement, saisir ce moment du « je meurs », d'être à ce moment-là définitivement absent de lui. Voilà, donc non, inventaire, je crois que c'est juste. C'est vraiment faire une recension, voilà un autre mot, une recension de ses propriétés et intérieures.
Mais non pas de ses décisions, ni des conséquences de ses décisions, vous le remarquez, ça. De ses actes, c'est davantage d'imaginaire.
Oui, oui, c'est pas de ses actes, hein, c'est pour ça que...
Souvenir, l'enfance.
Oui, c'est pour ça que, on peut dire, en gros, que quand même, les livres de Léris, enfin, la plupart se rattachent à la tradition autobiographique. Mais enfin, l'autobiographie, c'est souvent, même si ça ne suit pas un ordre chronologique, c'est de l'ordre de la narration, même si ça n'est pas une narration linéaire. On retrace certains événements. Et dans l'âge d'homme, il n'y a pas du tout de quelque chose qui retracerait des événements. C'est pas, dans ce sens, c'est pas une autobiographie. Il m'a semblé que, après avoir justement pris son moi comme objet, hein, qu'il avait fait le tour de ses propriétés, qu'il avait senti les limites de cette entreprise menée à bien, parce que l'âge d'homme, c'est parfait, et pour que ça soit le jeu au présent qui s'exprime. Et la règle du jeu, qui du coup l'entraîne dans un travail sans doute indéfini ou infini, c'est le sujet de Léris au présent, qui parle. On est contemporain, le lecteur se trouve à ce moment-là contemporain de sa démarche. Et j'ai écrit sur Léris à propos justement d'un colloque qui était consacré à l'autobiographie, où j'évoquais différents écrits autobiographiques, commençant par les confessions de Saint-Augustin, les confessions de Rousseau, évidemment, Canetti, Léris et quelques autres. Bon, je m'interromps là une seconde, parce qu'en employant le mot confession, parce qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'aveu. Hein, chez Léris, il y a aussi aller plus loin du côté de l'aveu, encore qu'il n'ait pas tout dit. Il y a un secret qui a été dévoilé depuis concernant sa femme et l'essence de sa femme. Donc il y a toujours quelque chose, même quand on veut tout dire, comme disait Rousseau, il y a toujours quelque chose qui demeure secret, qu'on ne communique pas. Mais confession, la grande différence, c'est que bon, Saint-Augustin, il s'adressait à Dieu. Hein. Rousseau invoque Dieu au début, si je me souviens bien, des confessions, mais en fait, il s'adresse à un autre humain, son semblable. Hein. Et Léris, à qui s'adresse-t-il ? Le projet autobiographique change à travers le temps. Parce qu'autobiographie, il y a trois mots font là-dedans. Il y a auto, hein, soi-même, hein, il y a bio, la vie, et il y a graphie, écriture. Et peut-être c'est la graphie, hein, qui prend de plus en plus d'importance. Dans la série de la règle du jeu, c'est vraiment l'écriture, hein, qui prédomine. S'écrire, comme si le jeu ne pouvait être présent que dans le « j'écris ». Pas « je me regarde », pas « je me confesse », pas « je me vois », pas « je me remémore », bien sûr des souvenirs vont venir, mais « j'écris », « je m'écris ».
Fumant une cigarette en prenant le thé du matin dans ma chambre parisienne, il me vient parfois l'envie, irraisonnée mais ressentie avec acuité, de fumer une cigarette. Or, je suis en train précisément de fumer. Et il est donc absurde de souhaiter faire ce que, tout simplement, je suis en train de faire. Sans doute, ce que je souhaite en vérité, c'est la détente que procure l'acte de fumer. Assis, et le coude droit reposant dans la paume gauche, tenir la Rothmans entre l'index et le majeur de la main droite, la porter à ma bouche pour aspirer profondément la fumée, Détacher de mes lèvres le bout liégé, puis expulser la fumée de préférence par les narines. Substituer de temps à autre le pouce à l'index pour libérer celui-ci qui, de deux petits coups tapotés sur le cylindre à l'extrémité incandescente, fera tomber la cendre dans le cendrier 1900 très Camelot, dont le bord est orné d'une toute jeune tête féminine en haut relief qui regarde vers l'extérieur et, yeux au ciel, semble émerger du double flot de l'interminable chevelure encerclant l'épais calice de métal à peine creusé. Durant un instant, je suis habité si entièrement par ce désir qu'il ne me vient pas à l'esprit que, fumant et songeant à fumer, comme si je ne le faisais pas, mon désir a pour objet la chose que je n'ai pas à désirer, puisque présentement je la réalise et que, d'ailleurs, ce désir est absurde à un autre titre encore, sa persistance montrant l'inutilité de cette chose, incapable de le combler, malgré le vague petit plaisir qu'elle peut donner. Quand presque tout de suite je découvre que la chose que j'ai envie de faire est justement celle que je fais, mais que mon désir ainsi assouvi sous la forme mineure qu'il avait prise demeure inassouvi, je suis certes mortifié par mon étourderie comme par un signe d'érosion cérébrale. Mais surtout, j'éprouve un léger vertige, sentant que, même si j'ai pour excuse de ne pas être encore bien réveillé, une faille se manifeste là, celle qui continuera d'exister en profondeur, alors même qu'en surface, notre désir aura trouvé à se réaliser.
Le ruban au cou d'Olympia, 1981.
Il y a plusieurs passages comme ça où on a l'impression qu'il y a pratiquement rien. Enfin, oui, je veux dire, il n'y a que l'écriture mise à nu, et qu'il y a une présence, je dirais, du mouvement même de la vacuité de l'écriture, et qui est comme un, qui défait un peu de l'intérieur la règle du jeu. Je ne sais pas si
vous partagez ça. Oui, mais ça, je crois que c'est le grand paradoxe de l'écrivain. C'est que l'écrivain est sûrement celui qui doute le plus de l'efficacité du langage, que disons l'homme, le commun des mortels, bon, il parle comme nous faisons là, bon, le langage lui sert à informer, à communiquer, c'est un outil, hein, dont il se sert plus ou moins bien, mais c'est un outil, donc ça ne l'inquiète pas. Et l'écrivain est celui justement qui tient le langage pour autre chose qu'un outil. Bon, il s'en sert comme tout le monde, hein, mais le langage comme pouvant aller au-delà, justement, d'une conception ustensile. Donc, le paradoxe, c'est que c'est celui qui est le... L'écrivain serait celui... Enfin, certains écrivains seraient ceux qui sont se méfient le plus du langage, hein, qui l'aime le plus, en même temps. Hein, ils sont... d'où une certaine cyclotimie, par moments, exaltation... Hein, sentiment de révélation à quoi le langage nous donne accès, et puis mélancolie, tout ça c'est rien, hein, c'est rien, c'est moins que la fumée d'une cigarette, c'est des cendres, on vient encore quand même au thème de la mort. Petite parenthèse, je me souviens que même, je crois que la première phrase de l'âge d'homme, je crois que c'est « j'ai 34 ans », je trouve ça, ouais, « je viens d'avoir 34 ans bon, », donc un homme jeune, la moitié de ma vie. Donc déjà, il voit l'échéance, et puis la phrase se termine par un point final, déjà il voit l'échéance, il voit la mort dans cet âge. À 34 ans, il me reste, bon, il a vécu fort heureusement, beaucoup, enfin, fort heureusement pour nous, peut-être pas pour lui, parce qu'il est mort à plus de 80 ans, Léris.
J'ai envie de vous citer la deuxième, qui est... Au physique, je suis de taille moyenne. Bon. Mais après, il dit plutôt petit.
Oui.
Donc, toujours restriction.
Oui, toujours un peu rabaissé. Ah, il n'est pas tendre avec lui-même.
Eh oui, parce qu'on continue.
Qu'on puisse dire,
ouais. J'ai des cheveux châtains coupés courts afin d'éviter qu'ils ondulent. Bon, c'est une belle phrase.
Oui.
Par crainte aussi que se développe une calvitie menaçante.
Oui, je pense que c'est surtout ça, c'est la menace de la calvitie, donc la menace du vieillissement, et la menace qui dit vieillissement dit mort à la brève échéance.
Parce que là, par exemple, ce mot menaçant, il est quand même, je vais pas faire une interprétation sauvage, mais on attendrait le mot naissante. Cavusie naissante.
Oui, oui. Oui, parce que le thème de la menace, il y a tout le thème de Judith.
Oui, bien sûr, mais là, on a la menace qui arrive en troisième ligne, je veux dire, à propos de Calvici.
Parce qu'il a toujours vécu menacé.
Côté, clown, c'est trop fort, mais parmi les modèles de Léris, il y a, à mon avis, il y a toujours les acteurs comiques du début du cinéma. Il y a Chaplin, il y a même un peu Fred Astaire. Alors, il y a chez Léris, il y a une pose un peu comique de celui qui rate. De celui qui essaye, justement, donc qui poursuit une femme, qui est condamné à l'échec. Il y a un comique de l'échec chez Léris qui est extrêmement, extrêmement important, à mon avis, et auquel on n'est pas toujours suffisamment sensible. Et ce qui est fondamental dans le ton, dans la voix de Léris, c'est que c'est une voix lyrique, mais non héroïque, non épique. Il y a un rêve d'épique, mais ce rêve ne sera jamais réalisé. Alors, donc, Léris n'est jamais... évidemment, les autobiographies héroïques sont insupportables. La seule manière de maintenir le ton de confession, c'est d'avoir cette distance ironique vis-à-vis de soi, et de raconter essentiellement pourquoi les choses n'ont pas marché, plutôt que de raconter pourquoi les choses ont marché. Et c'est effectivement, il y a le texte qu'il a écrit après la guerre pour la préface à la réédition de L'Âge d'Homme, est un texte qui a en général été mal lu, car ce que Léris y dit, c'est qu'en fait, un écrivain ne court jamais de risques sérieux. Ce que la guerre et la résistance lui a appris, c'est que ce n'est pas en écrivant que l'on court vraiment des risques. C'est peut-être en publiant, en faisant circuler des... Mais ce n'est pas le fait d'écrire qui expose, qui va permettre à l'écrivain de rivaliser avec le torero en termes de risques courus. Ce qui se passe pendant la guerre, c'est que Léris s'engage, devient... le personnage militant qu'on a connu, qu'il est resté jusqu'à la fin de sa vie, mais cet engagement se situe en dehors de la littérature proprement dite. L'ethnographie a été, à partir de 1946, le lieu de son engagement. En fait, il renonce au modèle tauromachique très tôt, dès le début de la règle du jeu, dès le premier volume, c'est très clair. Là encore, chez Léris, les choses marchent facilement par couple, il y a une espèce de système binaire. Et ici, il y a le modèle binaire, c'est d'une part l'opéra, d'autre part la tauromachie. Et il est assez clair qu'avec la règle du jeu, le modèle tauromachique qui était essentiel pour l'âge d'homme est désamorcé. Et je dirais qu'ici, bon, Carmen, l'opéra, n'est-ce pas, a remplacé la tauromachie proprement dite. Les effets de voix, le côté baroque de l'opéra deviendra le grand modèle de l'écriture de Léris. Le modèle de la tauromachie est un modèle de phrases brèves, d'efficacité. Une sorte de style acéré, d'un minimalisme, une austérité classique. Le modèle constamment invoqué par Léris, c'est le classicisme. Au contraire, avec la règle du jeu, passant de la tauromachie à l'opéra, il entre dans le monde du baroque.
Extrait de Fourbi, 1955.
Un tel entassement de feuillets, qui n'est plus aujourd'hui que l'instrument d'une désillusion, avait pour but avoué de nous faire exister plus fort. Pareille architecture, dont nous avons été l'ouvrier et le matériau, devant symétriquement aider à notre propre reconstruction. Mais ce livre, une fois paru, l'on voit que, bon ou mauvais, et même marqua-t-il une étape dans notre marche vers un peu plus de lumière, la seule chose sûre est qu'il n'existe pas, ou que, si nous faisons notre bilan sans nulle exagération romantique, il n'a d'autre existence que d'un livre venu s'ajouter à des milliers d'autres livres, meilleurs probablement que tel d'entre eux, mais livres, quoi qu'il en soit, et non cette projection quasi stellaire de nous-mêmes, par quoi nous avions pu croire que notre sort, comme magiquement, serait changé. Avoir pour commencer, essayer de prendre sa revanche sur une vie dont on n'était pas satisfait, en cherchant dans la conscience de cet échec un élément de réussite, une base, pour réaliser dans un autre domaine quelque chose de moins insignifiant, et que cela, puisqu'on n'y trouve qu'inconsistance au bout du compte, soit également manqué. Avoir ensuite voulu, fort de ce nouveau fiasco comme d'une liquidation, tenter sa chance une fois de plus dans cette vie dont, quoi qu'on ait pu faire à croire, on n'était point entièrement lassé, et que cette autre tentative aboutisse, elle aussi, à l'échec, à la constatation péremptoire qu'il y a décidément un manque dans notre vie elle-même. Tel est le vide trop réel, l'effectif trou d'entre deux chaises, d'où pour moi il s'agit présentement de remonter.
La preuve ontologique. Toute conscience est consciente de quelque chose. Cette définition de la conscience peut être prise en deux sens bien distincts. Ou bien nous entendons par là que la conscience est constitutive de l'être de son objet. Ou bien cela signifie que la conscience, en sa nature la plus profonde, est rapport à un être transcendant. Mais la première acception de la formule se détruit d'elle-même. Être conscience de quelque chose, c'est être en face d'une présence concrète et pleine qui n'est pas la conscience. Sans doute peut-on avoir conscience d'une absence, mais cette absence paraît nécessairement un fond de présence. Or, nous l'avons vu, la conscience est une subjectivité réelle et l'impression est une plénitude subjective. Mais cette subjectivité ne saurait sortir de soi pour poser un objet transcendant en lui conférant la plénitude impressionnelle. Si donc l'on veut à tout prix que l'être du phénomène dépende de la conscience, il faut que l'objet se distingue de la conscience non par sa présence, mais par son absence. Non par sa plénitude, mais par son néant. Si l'être appartient à la conscience, l'objet n'est pas la conscience, non dans la mesure où il est un autre être, mais dans celle où il est un non-être.
Michel Conta.
La lecture de L'être et le néant impressionne profondément Léris. C'est la première fois qu'il lit un livre de philosophie avec autant de difficultés, mais autant de profit. Et du coup, Sartre lui apparaît comme le philosophe de son temps, le philosophe le plus important. Et Bataille, qu'il connaît beaucoup mieux, avec qui il a travaillé, avec qui il a fondé le collège de sociologie, avec qui il a fait la revue Documents. Bataille lui apparaît comme un homme trop proche de lui, avec qui il a eu des relations d'amitié intense, une intimité commune avec Colette Peignot.
Laure.
Et ils ont publié, je crois, à cette époque-là, les écrits personnels de Laure. Et je crois qu'il est bluffé par Sartre, philosophe. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, me semble-t-il, chez Léris, un besoin d'admiration et un besoin de se mettre dans une situation de disciple. Et ça ne marche plus avec Bataille. En revanche, ça peut marcher avec Sartre, se dit-il. Et leur véritable amitié naîtra surtout dans les derniers mois de l'occupation, leur véritable intimité. Donc j'en reviens à ce que je disais au début. Je crois que Léris est dans une position de déférence à l'égard de Sartre, mais de déférence un peu rancuneuse. Et on l'aperçoit dans des passages de son journal. Enfin, il y a entre eux un fossé qui est celui qui... Ils n'ont finalement pas eu la même jeunesse.